Bonsoir à tous, bienvenue dans Du grain à moudre d'été. Ce soir, trop de touristes tuent le tourisme. Que dit un touriste français en arrivant à Venise, à Dubrovnik, à Majorque ou sur une île grecque, après avoir épuisé toutes les onomatopées de rigueur ? Waouh ! Oh là là ! La formule qui revient irrémédiablement, c'est « Non, franchement, il y a trop de Français, quoi !» Les touristes, évidemment, ce sont toujours les autres. Mais qu'est-ce qui conduit ces hordes de visiteurs du monde entier à s'infliger un voyage en avion, un trajet en RER, une fin de nuit dans un bus, pour venir voir ce qu'ils ont immanquablement déjà vu en photo, entre autres sur les comptes Instagram de leurs collègues ou de leurs voisins ? Eh bien, peut-être le désir de les voir avec la peau, ces canaux vénitiens, de s'assurer que l'île de Santorin est bien réelle, de prendre conscience des proportions de la tour Eiffel et évidemment de faire un selfie devant pour bien montrer qu'on y était. Face à cet afflux de touristes, de nombreuses destinations ont décidé de mettre le hola à Barcelone, justement à Madrid, à Londres ou Amsterdam. On imagine des quotas, des taxes, des déviations pour les paquebots de croisière ou des fermetures de plages, en faisant quand même attention à ménager les touristes qui les intéressent, ceux qui font marcher leur économie, bref, ceux qui ont de l'argent. Alors, trop de touristes tuent le tourisme. Nous en débattons jusqu'à 19h avec trois invités. Bonsoir à vous, Maria Gravary-Barbas.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes professeure de géographie à l'Université Panthéon-Sorbonne. Vous êtes directrice de l'Institut de recherche et d'études supérieures du tourisme et de la chaire culture, tourisme et développement de l'UNESCO. Est-ce que ça veut dire d'ailleurs que vous contribuez à décider de quels lieux peuvent être inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO ?
Pas exactement, mais je travaille beaucoup avec les centres du patrimoine mondial de l'UNESCO. La chaire tourisme, culture, développement de l'Université parisienne Panthéon-Sorbonne a une relation qui est très étroite, très privilégiée avec les centres du patrimoine mondial qui se posent énormément ces questions que nous allons discuter aujourd'hui.
Et vous connaissez aussi très bien ces destinations qui demandent aujourd'hui à être inscrites sur la liste du patrimoine en danger. C'est une des solutions qu'ont trouvé les municipalités qui n'arrivent plus à endiguer les flux de tourisme, et c'est une longue histoire. Et nous en parlerons, Maria Gravary-Barbas. Je cite l'un de vos derniers livres, l'Atlas du tourisme et des loisirs, paru l'année dernière aux éditions Autrement. Vous êtes ici en studio avec Pierre Josse. Bonsoir.
Bonsoir.
Merci également d'être avec nous, cofondateur et rédacteur en chef du Guide du Routard. Tiens d'ailleurs, quels sont les guides que vous avez écrits vous-même, les destinations que vous connaissez par cœur?
Il y en a plus de 150, puisque avec Philippe Loagen, où on a démarré l'entreprise, l'aventure ensemble. Donc, en principe, j'ai participé entièrement ou partagé avec des collègues l'ensemble des titres de la collection.
C'est-à-dire qu'au tout départ, vous partiez tout seul avec un sac à dos?
Absolument, vous avez dit... Oui, le guide Brésil en 82 m'a pris 5 semaines.
Wow.
Et 14 avions intérieurs.
14 avions intérieurs, c'est pas très bien pour le bilan carbone. Mais est-ce que vous diriez
qu'à l'époque, on s'en souciait peu.
Est-ce que vous diriez qu'à l'époque vous étiez un voyageur et que vous, aujourd'hui vous êtes un touriste quand vous faites le guide du Routard?
On est des touristes, on est de toute façon toujours des touristes, mais amateurs éclairés, quoi. Voilà.
Vous êtes aussi l'auteur, Pierre Josse, de Chroniques vagabondes, petit dictionnaire insolite des rencontres et itinéraires d'un Routard, paru chez Hachette. Et nous sommes également en duplex depuis France Bleu Isère à Grenoble, que nous remercions, avec Rodolphe Christin. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, auteur d'un manuel de l'anti-touriste et plus récemment, en 2014, L'usure du monde, critique de la déraison touristique aux éditions de l'Échappée.
Un manuel de l'anti-tourisme.
Oui, de l'anti-tourisme. Et c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la langue finit par fourcher à force de répéter ces mots et de les redire et de les redire encore. Vous plaidez, vous, Rodolphe Christin, pour le voyage en opposition au tourisme. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des destinations où vous n'allez plus, où vous avez décidé de ne plus mettre les pieds?
Alors moi, il se trouve que je voyage beaucoup moins parce que je dirais que l'enchantement du tourisme ne fonctionne plus vraiment sur moi. Du coup, je voyage de moins en moins, je prends de moins en moins l'avion, je me satisfais autant que possible de mon territoire de proximité. Alors il se trouve que j'ai peut-être un peu de chance parce que j'habite la région grenobloise. Oui. Et donc j'ai une diversité de territoires à la portée de mes pieds.
Alors vous avez quand même quelques kilomètres à faire pour y aller, mais vous n'êtes pas si loin du Mont Blanc, et c'est aussi une destination qui aujourd'hui et depuis d'ailleurs quelques années explique être débordée par le tourisme, et on aura l'occasion d'en parler. Donc On avait vu les années précédentes des habitants de grandes destinations touristiques, Barcelone, Paris, Venise par exemple, manifester leur exaspération face à l'afflux de touristes et ce qu'ils ressentaient comme une confiscation de leur lieu d'habitation. Et cet été, ce sont des municipalités qui prennent des décisions de réguler ce flux. Alors que ce soit Venise et sa future taxe d'entrée entre 2,50 € et 10 euros à partir du 1er janvier prochain, Palma de Mallorca qui veut sévir avec les bateaux de croisière, Barcelone, Amsterdam qui se battent contre Airbnb. Maria Gravary-Barbas, est-ce que c'est nouveau le fait que ces municipalités témoignent aujourd'hui d'une volonté de faire un peu la police du tourisme, d'organiser les flux ?
Oui. C'est nouveau. Ce qui n'est pas nouveau, c'est ce que nous qualifions de surtourisme ou de overtourisme. C'est vrai que c'est un mot un peu valise et qui n'est absolument pas défini. Aujourd'hui, si on cherche à définir comment qualifier telle destination de surtouristique, on n'a absolument pas les outils. Nous ne savons pas sur quelle base on pourrait, à partir de quel seuil, on peut qualifier telle ou telle destination de surtouristique. Et ces sentiments d'excès de tourisme, c'est quelque chose qui est ancien et qui est parfois, pour certaines destinations, aussi ancien que le tourisme lui-même. Ce qui est nouveau, effectivement, c'est le sentiment des plusieurs populations locales qui, au cours des dernières années, et je pense qu'il y a vraiment un été qui a un peu marqué date, l'été de 2017, où plusieurs donc populations, dans plusieurs villes notamment, ont pris la rue, en fait sont descendues dans la rue, ont manifesté pour que ce qu'elles percevaient comme trop de tourisme puisse être régulé et donc contrôlé. Et je pense que pour nous, chercheurs en tourisme, ce sont vraiment des temps assez formidables parce que nous voyons que pour la première fois, les municipalités, les décideurs locaux se penchent sérieusement sur ce problème et cherchent à trouver des solutions, cherchent en quelque sorte à contrôler un phénomène qui jusqu'à maintenant avait été considéré quelque part des phénomènes naturels. C'était un peu comme la pluie, le tourisme tombait, arrivait dans les villes. On comprend maintenant que c'est une activité économique et que comme toutes les activités économiques, doit être régulée, doit être planifié, doit être contrôlé et que n'importe qui ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Alors, et ça, c'est effectivement quelque chose qui est nouveau et c'est formidable parce qu'on voit tous les dispositifs de nouvelles lois, de nouvelles régulations qui se mettent en place dans plusieurs villes.
Il y a des villes où, dites-vous, les touristes, on les voyait arriver comme tombe la pluie, et notamment Londres. Alors, en l'occurrence, pour ce qui concerne la pluie, c'est plutôt de bonne aloi. Paris aussi. Mais finalement, les villes où là, aujourd'hui, on voit les municipalités taper du poing sur la table sont des villes où le tourisme est assez récent.
Dans l'histoire,
Barcelone absolument n'était pas une destination touristique.
Mais tout à fait, tout à fait. Et c'est la raison, d'ailleurs. C'est pour cela. C'est-à-dire que on a affaire à des destinations qui sont relativement récentes. Barcelone était une ville industrielle, devient une ville touristique essentiellement après les Jeux Olympiques. Berlin est une ville, une destination nouvelle également, après donc la chute du mur. Et ce sont des villes qui se sont adaptées de façon trop abrupte sur le tourisme, qui effectivement les découvrent et qui n'ont absolument pas eu le temps de préparer un dispositif touristique comme celui des anciennes destinations touristiques comme Paris ou Londres.
On peut aussi citer l'Europe de l'Est, Pierre Josse. Non. Est-ce que vous vous rappelez les premières fois où, pour le guide du routard, vous êtes allé au-delà de ce qui était jusqu'à présent le mur, quoi, le rideau de fer ?
Ce que j'aimerais rajouter, je suis entièrement d'accord avec ce que vous avez dit, mais il y a aussi, pour moi, ce qui est le plus important, c'est la question sociale. C'est-à-dire que ce qui est dramatique pour les habitants de Berlin, de Lisbonne, de Barcelone, d'Amsterdam, c'est que le nouveau phénomène de Airbnb, par exemple, le fait que, au début, c'était le retraité qui avait une chambre de trop, qui la loue aux touristes de passage, ça lui fait un petit pécule parce que sa retraite est faible, là c'est acceptable. Mais c'est devenu une véritable industrie, il y a des gens, des sociétés, des compagnies, des fonds de pension, des sociétés immobilières qui possèdent des dizaines, des centaines de logements et qui vont les louer 3-4 fois plus cher que les locations normales à Berlin, à Barcelone, à Amsterdam, voilà. Et là, ça assèche le marché locatif et ça provoque la paupérisation et la désertification.
Je vous montre juste un chiffre. Et la colère des habitants.
Non, mais un chiffre. Venise, il y a 40 ans, 100 000 habitants. Aujourd'hui, 55 000. Les propres Vénitiens, les enfants des Vénitiens, ne peuvent même plus habiter dans leur propre ville. Et ça, c'est un véritable problème.
Alors cet été, on le voit vraiment apparaître à Athènes. Il y a des promoteurs immobiliers qui rachètent des immeubles entiers ou qui attendent encore un an ou deux parce qu'ils voient que les marchés de l'immobilier, le marché va exploser pour en faire des immeubles totalement Airbnb avec des familles qui sont au sommet de partir alors qu'elles étaient souvent locataires depuis très longtemps. Rodolphe Christin, est-ce qu'au début, quand vous avez vu arriver une plateforme comme Airbnb, vous vous êtes dit... C'est vrai qu'au départ, l'ambition de départ, c'était de dire on va vivre comme chez l'habitant, quoi. On va vivre comme les habitants des villes dans lesquelles on met en place la chose. Est-ce que vous vous êtes dit, tiens, peut-être une nouvelle forme de parce que vous avez peut-être pu vous pratiquer comme voyageur, partir le sac au dos, aller au petit bonheur, la chance, en fonction des portes qui s'ouvrent, quoi.
Alors, c'est vrai que Airbnb, au départ, aurait pu paraître comme une espèce de voyage alternatif au tourisme industriel. En fait, le constat, il est bien pire que ça. Ça veut dire qu'avec Airbnb, chacun d'entre nous devient un espèce d'agent touristique potentiel qui peut marchandiser une chambre, un appartement. Et en fait, c'est un stade encore plus avancé de pénétration du tourisme dans la vie quotidienne des habitants.
Et qui a quand même contribué à démocratiser le tourisme. Et on va vraiment prendre le temps tout à l'heure de discuter de cette question-là, de la démocratisation du tourisme. Est-ce qu'elle est, est-ce qu'il faut en parler dans ces termes? Est-ce que c'est le bon mot pour l'employer? Sur Airbnb, des municipalités aujourd'hui se mettent à se battre face à ce qui est, comment est-ce qu'on peut l'appeler Airbnb, un géant international en réalité. Maria Gravary-Barbas, est-ce que, voilà, qu'est-ce que pèsent des municipalités face à ce genre de plateforme?
Elles peuvent peser énormément, en fait. Et je pense que ce qui est vraiment formidable aujourd'hui, c'est qu'elles commencent à prendre conscience. Elles prennent conscience du fait qu'elles peuvent effectivement peser, elles peuvent réguler, elles peuvent surtout contrer un discours d'Airbnb qu'aujourd'hui on sait très bien qu'il le faut. Effectivement, au début, quand Airbnb a commencé, il y avait ces discours qui consistaient à dire que cela permet en fait à des personnes comme les Parisiens qui ne peuvent pas facilement habiter dans les centres de Paris de compléter par un revenu en fait complémentaire et donc pouvoir financer leur lieu de vie. Ce qui était également dit, c'est que Airbnb permettait de diffuser le tourisme en ouvrant en fait la concentration touristique vers des zones qui sont moins en fait touristifiées. On sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Et on sait aujourd'hui, en comparant donc tout un ensemble de dispositifs qui ont été mis en place par plusieurs villes, Barcelone, Paris, Milan, Québec, l'arrondissement du Vieux-Québec qui est aussi très concerné par ce phénomène, San Francisco qui a été quelque part une ville pilote pour la pénétration d'Airbnb en fait dans la ville, on sait qu'il y a tout un ensemble de dispositifs. Et quand on compare en fait ce qui a été mis en place par les différentes villes, il y a aujourd'hui beaucoup de travaux. Airbnb est un phénomène aussi scientifique, ça a énormément intéressé les chercheurs, donc il y a aujourd'hui énormément de travaux là-dessus. Quand on regarde la comparaison entre les dispositifs, on voit effectivement qu'il y a des villes qui mettent en place des dispositifs, je dirais, moyens, et il y en a d'autres qui contrôlent énormément. Paris, pour revenir à l'exemple que vous aviez pris tout à l'heure, est une ville qui effectivement contrôle aujourd'hui, je dirais, de façon qui est plus souple que celle de Barcelone, pour les raisons que nous avions évoquées tout à l'heure. C'est-à-dire que le phénomène touristique, d'une part, est ancien dans la ville. Ensuite, le fait que les habitants de Paris n'ont pas encore pris les rues de la même façon que ceux de Barcelone. Et aussi, le fait que à Paris, les problématiques que parfois on attribue à Airbnb, donc la désertification de la ville, sont beaucoup plus complexes parce qu'il y a plein d'autres phénomènes, en fait, qui interviennent au niveau du logement parisien.
Alors, il n'y a pas que la question d'Airbnb. Il y a ces mesures donc, qui sont mises en place cet été dans certaines villes, notamment cette question des quotas. Tiens, ça nous intéresse, Rodolphe Christin, Pierre Josse.
Oui.
Mettre des quotas sur certaines destinations. Alors, Venise, par exemple, limite aujourd'hui à 20 000 le nombre de participants sur la place Saint-Marc lors du carnaval. À Barcelone, certains parcs... Alors, c'est le parc, évidemment, le grand parc Güell qui est accessible à 400 personnes simultanément. Saint-Aurin n'acceptera pas plus de 8000 touristes par jour désormais. Je sais pas.
Ça, c'est les croisiéristes.
Oui, pour les croisiéristes, mais enfin, ce sont
8000 au lieu de 12 000.
Oui, 8000 au lieu de 12 000, mais enfin, les personnes qui arrivent tous les jours arrivent essentiellement par bateau. Ça veut dire quoi? Qu'on va mettre des grilles, des portiques d'entrée,
voilà.
Mais ça, je veux dire, comment ça se manifeste?
Honnêtement, c'est l'horreur. Moi, je vois pas. je vois pas comment ils vont trouver de système qui soit pas policier, coercitif, orwellien, pour réguler les gens. Enfin, vraiment qu'ils mettent un brainstorming très intelligent, voyez. Mais effectivement, mais là, c'est obligatoire. C'est obligatoire parce que, par exemple, à Dubrovnik, ils vont imposer 8000 personnes par heure. Je me demande effectivement quel
par
moyen.
Heure, par jour. Par heure, a priori, par c'est par jour.
C'est par jour, ok.
Nous dit Maria Gravani Barbas.
Pareil au Machu Picchu, par exemple, ils vont imposer aussi 6 à 8000 personnes par jour. D'ailleurs, entre parenthèses, j'en profite pour dénoncer cette absurdité de faire un aéroport international à Chinchero, qui est un des plus beaux villages coloniaux du Pérou, avec des témoignages archéologiques extraordinaires, avec des terrasses incas vieilles de 1500 ans, et on prétend réduire le nombre de gens sur le Machu Picchu parce qu'il y a un problème d'érosion, et en même temps on ouvre un aéroport international censé apporter encore plus de flux touristiques. Là, je comprends plus rien.
Rodolphe Christin, au Mont Blanc dont vous êtes proche, on a aussi mis en place des restrictions, pas plus de 214 alpinistes par jour. Je crois que c'est la première année que cette restriction a été mise en place. C'était une volonté du maire de Saint-Gervais, Jean-Marc Payex, que ses collègues autour n'ont quand même pas toujours pris au sérieux, et finalement ce qu'ils demandent depuis des années a été mis en place. Vous savez comment ça marche? Et si ça marche, ce permis d'accès ?
Non, mais moi, ce qui me choque là-dedans, c'est que finalement, la liberté de circulation, la liberté d'accéder à un espace public se voit complètement restreinte par une espèce de goulot d'étranglement qu'on met en aval, c'est-à-dire alors qu'il faudrait, de mon point de vue, agir en amont, c'est-à-dire qu'il faut se poser la question de pourquoi est-ce qu'on a autant besoin de mettre en valeur les territoires. Il y a une grosse hypocrisie dans ces restrictions-là, parce que à la fois le développement touristique est un impératif dont aucun territoire ne veut et peut-être ne peut se passer, ça se discute. Et donc tout est fait pour inciter les gens à partir. Aujourd'hui, il y a une norme du départ qui est extrêmement forte dans l'esprit des gens. Et en même temps, on se plaint des désastres que ça cause. Et on multiplie les infrastructures, comme on vient de parler d'un aéroport. On facilite l'accessibilité des sites au Mont Blanc, à l'Everest, partout. Et ensuite, on se plaint de ce que ça crée. Je pense qu'il faudrait revenir à une réflexion sur pourquoi est-ce qu'on incite autant au départ en vacances. Qu'est-ce que ça signifie que de partir aussi souvent pour des motifs aussi futiles? Et finalement, c'est une question philosophique et anthropologique qui se pose au final.
Maria Gravari Barbas, est-ce que c'est un luxe aujourd'hui de se poser la question de ces pratiques-là, de se demander par exemple si on va continuer à prendre l'avion? Parce que pour beaucoup, et Jérôme Fourquet le rappelait dans son livre L'Archipel français, pour beaucoup aujourd'hui, ne pas partir en vacances, c'est synonyme de déclassement. Est-ce que c'est condescendant par exemple d'imaginer, ou est-ce que c'est tout simplement un luxe d'imaginer qu'il faille se poser la question de si on part ou pas?
Moi, je pense que nous parlons ici des deux différents types de contrôle. Il y a d'une part le contrôle qu'on pourrait exercer sur la libre mobilité des êtres humains. Et effectivement, nous avons tous envie de pouvoir aller partout dans le monde. Et il y a de l'autre côté un contrôle que les États, les régions, les gouvernements locaux doivent exercer vis-à-vis de tout un ensemble des sociétés capitalistiques. Là, on parle d'un contrôle de croisière, on parle de contrôle d'Airbnb. Ce n'est pas du tout du même registre. Et là, effectivement, je pense qu'il y a une vraie obligation du moment où il y a un sentiment de trop, trop de tourisme, trop de nuisances, trop de problèmes, finalement, de la vie quotidienne des gens. Il est tout à fait normal que un bateau de croisière, qu'une société de croisière n'accostera pas où elle veut, comme elle veut et quand elle veut. Et là, ça relève finalement d'un contrôle qui est très compliqué, qui est très complexe au jour aujourd'hui, malgré la volonté des villes, parce qu'effectivement, Dubrovnik a voulu même aller au-delà de ce qui lui était imposé par l'UNESCO, a voulu faire la moitié en fait des 8000 passagers par jour. Ils ont dit, voilà, nous on va se limiter à 4000. Le problème, c'est que les croisières, c'est un réseau. Et si Dubrovnik prend cette décision alors que Venise souhaite continuer finalement librement et que d'autres ports croates ne comprennent rien, là, il y a effectivement un problème. Donc, on est dans une logique systémique qui doit être vue vraiment comme une logique systémique, en tout cas sur certains territoires régionaux ou européens.
Alors, c'est dire le poids des prestataires touristiques, Pierre Josse, dans ces contrées-là, on a l'impression qu'ils ont beaucoup plus de poids que les municipalités, quoique ce sont eux qui prennent les décisions.
Ils ont pris des mauvaises habitudes. C'est ça le problème. Et c'est des puissances financières, mais énormes. Je veux dire, les croisières, c'est des milliards et des milliards d'euros, de dollars. Et effectivement, vous avez tout à fait raison, madame, c'est systémique. C'est que en amont, maintenant, c'est au niveau des gouvernements, des pouvoirs, de discuter la philosophie de ce que peut être un tourisme aujourd'hui, régulé, réparti sur l'année, aider les gens également, les éduquer à partir, disons, plus souvent dans l'année, de façon fractionnée, pas seulement toujours
au même... Mais tout le monde ne peut pas partir en septembre, par exemple.
Oui, non, mais aussi, c'est vraiment un problème global à discuter avec les patrons. Avec les patrons, avec les industries, aider leurs employés à partir peut-être en mai, en avril, en février, de façon plus souple, de façon à répartir la population touristique, de façon plus homogène, plus naturelle, sur l'ensemble des grands, grands sites archéologiques et touristiques mondiaux.
Alors, Rodolphe Christin, il y a ce bras de fer qui doit être engagé, à vous entendre tous, entre les autorités locales et les opérateurs, mais pour
Alors,
l'instant...
De mon point de vue, quand même, je voudrais apporter une petite nuance. Je pense qu'il y a un consensus assez fort entre les élus, des collectivités locales et les industriels du tourisme.
Ah bah vous êtes près de là où devait se créer un center park à Roibon, par exemple.
Donc oui, vous connaissez bien le sujet. Les élus locaux étaient largement favorables à la création de ce center park.
Parce que forcément, on ne parle. Les arguments sont toujours les mêmes. C'est emploi et retombées économiques.
Exactement.
De toute façon.
Et même si les retombées économiques ne sont pas autant réparties également. Qu'on le dit, quoi.
Et en même temps.
Mais de ce point de vue-là, il y a un large consensus entre pouvoir public et je dirais, le monde des entrepreneurs.
Mais à Paris, est-ce que le Louvre existerait encore, ou Versailles, ou le musée d'Orsay, s'il n'y avait pas de touristes? Je crois que les touristes représentent 70% de la fréquentation du Louvre, par exemple. Donc il y a, dans certains cas, un vrai argument économique contre lequel on peut difficilement lutter. Pierre Josse?
Non, mais je pense. Alors, il y a une mesure qui a été prise maintenant par pas mal de municipalités mondiales dans les grandes villes muséales. C'est effectivement la réservation à certaines heures, à certaines journées. Et là, c'est une discipline auquel les gens peuvent parfaitement se contraindre. Et ça évite de se retrouver avec 2000 personnes devant la Joconde à faire des selfies de merde. Excusez-moi.
Parfois réussi.
Moi, je suis révolté, là. Non, mais heureusement qu'on a supprimé les cannes, dans les musées. Mais
les perches à selfies.
Voilà.
Alors, on parle, vous avez évoqué la question des opérateurs touristiques et ce qui doit être fait, soit en discutant avec eux, soit dans un rapport de force. Mais pour l'instant, les mesures qui sont prises, donc on a évoqué les quotas, mais il y a aussi ces taxes qu'on fait payer. Alors, Saint-Aurin réfléchit à faire payer 25 euros, par exemple, l'entrée sur son port. Mais ça veut quand même dire, plus ou moins, qu'il sélectionne les touristes. Tout le monde ne pourra pas payer 25 euros pour entrer sur une île. Et puis, au-delà du côté un peu Disneyland de l'histoire, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de payer un droit d'entrée pour une île. Est-ce que vous pensez, Maria Gravary-Barbas, qu'on a une volonté de sélectionner les bons touristes qui seraient bons par rapport aux touristes qui dépensent moins?
Non, je ne pense pas qu'il y ait une volonté de sélectionner les bons touristes. Et puis bon, il faudrait discuter sur
ce que fait
un bon tourisme. Mais je pense qu'il y a clairement une volonté de résoudre cette équation de la façon la plus simple, sans doute la plus naïve aussi. Donc autant je suis totalement pour le contrôle des sociétés, des tour opérateurs, des croisiéristes et des plateformes de location de courte durée, autant je suis très sceptique par rapport à ces mesures. Je pense qu'elles ne seront pas très efficaces et elles risquent de créer plus de problèmes qu'elles ne créent. Pour en reprendre l'exemple en fait de Saint-Aurin, Saint-Aurin est typiquement une destination de croisière. Donc le problème vraiment majeur vient de ces bateaux de croisière. Quand on est à la caldeira, on voit ces bateaux qui presque s'entrechoque en fait. Donc moi je commencerai vraiment par cela et je pense qu'il faudrait qu'on voit de quelle façon après les touristes individuels pourraient éventuellement être contrôlés. Je prends aussi un exemple pour Barcelone, Saint-Aurin. Saint-Aurin est aussi une destination très romantique. Vous savez que tous les couples asiatiques viennent en fait se prendre en photo à Saint-Aurin. Il y a aujourd'hui des agences spécialisées vraiment dans les photos de mariage.
Comme à Tours, d'ailleurs.
Là
en
aussi,
France.
Comme à Tours, exactement.
Dans les
châteaux. Ça aussi, je pense que ce sont des choses qui se régulent. Là où je voulais revenir sur le pouvoir des municipalités, je pense qu'il est vraiment très important. Je comprends très bien qu'aujourd'hui, une municipalité n'a pas à trancher entre d'un côté les touristes et de l'autre côté les habitants locaux. Parce que parmi les habitants locaux, il y a ceux qui sont intéressés par le tourisme, qui gagnent leur vie par le tourisme. Il y a parfois des mafias locales, en fait, et du tourisme. Il y a de l'autre côté tous ceux qui, finalement, n'expérimentent, ne vivent que les nuisances. Mais il y a de plus en plus des villes qui font un programme politique sur le contrôle du tourisme. Et Barcelone, c'est vraiment la preuve, en fait. La mairesse de Barcelone, elle a été élue sur donc la volonté d'emblée de contrôler le tourisme.
Ce programme, est-ce qu'on peut, Rodolphe Christin, est-ce que certains, d'aucuns peuvent opposer qu'il y a un droit au tourisme et que toutes ces mesures finalement sont des atteintes à un droit au tourisme ?
De mon point de vue, l'espace public devrait être accessible, enfin chacun devrait pouvoir s'y déplacer. Le problème, c'est de savoir comment, et le problème, c'est aussi de savoir quels moyens on se donne, quel effort on se donne pour pouvoir accéder aux lieux qui nous font rêver. Aujourd'hui, le tourisme est en train de créer des infrastructures qui sont en train de produire une espèce de cauchemar de consommation, où les espaces touristiques deviennent des lieux de consommation, des espèces de supermarchés à ciel ouvert. Et le problème, à mon avis, il est là, et je trouve qu'il y a une grosse hypocrisie à vouloir à la fois réguler le tourisme et en même temps développer les infrastructures d'accueil de touristes. On parlait tout à l'heure du Center Parcs de Roibon. Ce sont les habitants qui s'y sont opposés à ce Center Parcs. Ce sont des associations, alors de gens qui parfois viennent de l'extérieur, qui se sont opposés. Alors on sait qu'il y a eu une ZAD qui s'est implantée aussi. Il y a eu une conjonction, si on analyse un peu les résistances au tourisme, ce sont à la fois des résistances juridiques menées par des associations et à la fois des résistances, en tout cas là en termes plus d'activisme qui ont occupé l'espace pour empêcher les travaux de commencer. Et aujourd'hui, pour l'instant, la loi donne raison aux opposants. Je pense que aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que ce consensus touristique est en train d'être brisé, mais il est brisé par des individus, par des associations. De ce point de vue-là, on a l'impression quand même qu'il ne faut pas attendre grand-chose des institutions qui, d'une façon générale, sont largement d'accord pour que le tourisme puisse se développer, pour que le nombre de touristes puisse encore augmenter, parce que tout ça ramène de l'argent, y compris quand une collectivité décide de faire payer un droit d'accès à une île ou à un quartier, d'une certaine manière, elle se rend dépendante de l'économie touristique. Donc elle n'aura pas aucun intérêt à organiser la décroissance du tourisme.
Pierre Josse,
comme vous l'aurez compris, moi je plaide plutôt pour une décroissance touristique.
Une décroissance touristique, c'est ce qu'on entend bien. Vous êtes non pas d'accord. D'ailleurs, on n'entend pas vraiment de jugement de votre part à tous les trois dans ce tourisme de masse qui a été permis quand même, notamment en France, par les congés payés, par la gauche, et qui finalement a fini par profiter au capitalisme et à un très grand marché. Pierre Josse, quand on parle des profits du tourisme, dans la poche de qui retombe-t-il ? Est-ce que c'est uniquement l'économie locale qui
Non, c'est l'autre scandale. C'est qu'effectivement, c'est un chiffre, j'ai pas le chiffre très exact, mais autour de 80% de la manne touristique récoltée dans le sud revient au nord.
Dans le sud.
Et ça, c'est
les pays du sud ou
les pays du sud
revient
aux pays du nord. Et ça, c'est profondément injuste.
Est-ce que les entreprises et les
les grandes entreprises capitalistiques, les grandes organisations de tourisme sont mondialisées et sont la plupart dans le nord.
Pierre Josse, quelle est la responsabilité des guides de tourisme dans ce surtourisme aujourd'hui ?
Alors,
est-ce que vous, au guide du Routard, vous vous posez parfois la question de votre responsabilité ?
C'est une bonne question, effectivement. Nous sommes, qu'on le veuille ou non, des instruments de pénétration de l'idéologie, de la philosophie occidentale, du tourisme dans les pays du Sud principalement. Si je le faisais pas, si j'étais cohérent, je démissionnerais. j'arrêterai de faire des guides. Bon, en revanche, je suis pas tout seul sur le marché. On a des centaines et des centaines de guides touristiques de tous les pays du monde. Donc, c'est pas moi qui provoque cette pénétration du tourisme de masse.
En revanche, qu'est-ce que vous vous dites?
Il y a une façon de présenter les choses. Il y a une façon de présenter les choses. Je prends l'exemple du guide Paris. Lorsque j'ai fait le guide Paris, on parlait des Champs-Élysées, de l'Opéra et des grands boulevards, et il y avait une page sur les quartiers de l'Est parisien, sur le 19e et le 20e arrondissement. J'ai fait l'inverse. J'ai développé tous les centres d'intérêt des quartiers populaires. Il y avait deux lignes, pas mal de guides sur Paris, sur la Goutte d'Or. J'ai développé trois pages. Parce que c'est un site historique, parce que c'est un site littéraire, c'est l'Ac Zola à Mille-Assommoir et Gervaise. Il y avait un petit vin blanc qu'on appelait la Goutte d'Or. C'était le plus grand marché immigré, générant des dizaines et dizaines de milliards de chiffres d'affaires. Il fallait en parler. Bon, et il y avait une population immigrée très intéressante en termes de culture, en termes de choc de culture, etc.
Et aujourd'hui, ça s'est complètement gentrifié. C'est comme
oui.
Ces quartiers-là, beaucoup.
Oui, mais c'est pas de ma faute.
C'est pas de la faute des guides. Voilà, mais vous oui,
Marie. Oui, non, je pense pas que ce soit la faute, votre faute, la faute des guides ou la faute du retard. Mais c'est vrai que nous avons ici un phénomène qui est quand même assez pervers. C'est-à-dire que une partie de ces problèmes-là viennent justement du fait que les touristes aujourd'hui ont envie, en fait, de sortir de ces territoires dans lesquels on les avait cantonnés. On parle de tourisme de masse, mais le tourisme de masse balnéaire qui allait vers des enclaves touristiques, finalement, bon, ça a posé des problèmes environnementaux, certainement, mais pas du tout les problèmes sociaux que nous observons actuellement. Tout ceci se produit du jour où, justement, le touriste souhaite vivre comme les locaux, souhaite sortir des sentiers battus, souhaite découvrir, bien entendu, la Goutte d'Or, et souhaite finalement entrer dans des territoires qui ne sont pas préparés et dans lesquels il va jouer un rôle, pas forcément un mauvais rôle, mais il va produire un effet. Et cet effet sera évidemment beaucoup plus lisible et visible dans la Goutte d'Or que sur les Champs-Élysées. Et c'est là où il y a une certaine difficulté finalement, et c'est pour ça finalement que ces problèmes d'over-tourisme, enfin de sur-tourisme, on les a essentiellement dans des villes et dans des quartiers habités.
Pierre Josse, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de regretter d'avoir mis une adresse dans le guide, ou au contraire, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de renoncer à mettre une adresse?
Absolument, il n'y a pas longtemps, je travaillais en Crète, près d'Héraclion, mon chauffeur de taxi qui m'avait amené à mon hôtel m'avait indiqué un restaurant de poissons absolument fabuleux, très difficile à découvrir, il n'y avait pas de pancarte, un petit chemin de terre pour arriver jusqu'à la mer, les tables c'était carrément des boîtes en carton, voyez, mais un poisson qui arrivait, qui bougeait encore dans l'assiette. Et je me suis dit, je vois mal 50 lecteurs du Routard arriver dans cet endroit, parce qu'il va totalement bousculer l'équilibre sociologique de l'établissement. Les gens, les habitués ne vont plus venir, ils vont se sentir agressés. Le monsieur va être complètement perturbé parce qu'il n'a pas l'habitude d'un tel rythme de travail. Voilà. Et je n'ai pas mis l'adresse. En revanche, j'ai fait le petit pousset. C'est-à-dire, on m'a dit que du côté d'Héraclion, il y avait un petit resto génial, mais j'en sais pas plus.
Non.
Donc, le type qui veut être motivé, il va essayer de savoir où c'est, mais il se le devra à lui-même.
Rodolphe Christin, vous voyez qu'il y a encore des petites destinations. Vous pourriez peut-être trouver ce petit restaurant en Crète. Il y a encore peut-être des destinations où on peut voyager sans se sentir forcément touriste. D'ailleurs, est-ce que est-ce que cette opposition-là, elle veut dire quelque chose? Est-ce qu'elle est réelle?
Alors, du mon point de vue, moi je considère que le fait de se déplacer, d'expérimenter d'autres géographies, d'autres cultures est une situation profondément réflexive, c'est-à-dire et aussi sensible, c'est-à-dire que c'est la dimension exploratoire du voyage me semble devoir être sauvée. La question, c'est qu'aujourd'hui, ça devient extrêmement compliqué et ça devient presque de plus en plus difficile de vivre ces expériences-là, qui sont des expériences à proprement parler exceptionnelles, extraordinaires. Et comme le monde se touristifie progressivement partout, et y compris les destinations les plus isolées, les plus exotiques au sens extravagant du terme, deviennent mises en marché touristique, ça devient extrêmement compliqué. Et je crois que lorsqu'on a la chance de vivre une de ces expériences-là, il ne faut surtout pas en parler.
Et alors, comment on fait pour que ça... Alors, donc, ça doit rester confiné, ça doit rester réservé à une élite, du coup ?
pas une élite, parce que tout le monde est en capacité de se déplacer, de réfléchir, de penser, de vivre. On a tous cette capacité-là.
Donc une élite aujourd'hui, touristique, on va dire.
Aujourd'hui, pas le problème, il est sociale. Que l'effort physique du voyage me semble intéressant à être vécu, mais aussi l'effort psychologique, parce que le fait de se déplacer dans l'espace a toujours été une épreuve d'isolement. C'est-à-dire qu'on s'isolait de ses proches, on disparaissait momentanément de son espace quotidien. Mais aujourd'hui, tout ça, c'est fini, parce qu'avec les nouvelles technologies notamment, on arrive même au bout du monde à être connecté en quasi-permanence et à faire les fameux selfies dont parlait notre interlocuteur tout à l'heure. C'est-à-dire que aujourd'hui, on est partout connecté, on est partout en train de communiquer, et finalement, le monde ne devient qu'un décor sur lequel s'expose le narcissisme de chacun, notamment grâce à ces nouvelles technologies qui vont permettre de démultiplier. On parle aujourd'hui des influenceurs, hein, de ces professionnels de la communication via les nouvelles technologies qui ont l'air d'être comme vous et moi en train de découvrir, de faire du tourisme, mais qui en fait contribuent largement au marketing des destinations. Et c'est tout ce système-là. Et effectivement, tout à l'heure, je vous ai repris, vous parliez du manuel de l'antitouriste. Mais c'est le manuel de l'antitourisme, au sens où c'est le système touristique qu'il faut analyser et, de mon point de vue, critiquer.
Est-ce qu'il y a donc un tourisme responsable ? Est-ce que ça existe encore ? Est-ce que c'est encore possible de pratiquer un tourisme éthique ? Pierre Josse.
Oui, je suis un peu en divergence avec notre ami de Grenoble, parce que moi, j'ai un dada. J'adore l'Afrique de l'Ouest. Malheureusement, on peut plus aller chez les Dogons parce que à cause des problèmes politiques et de sécurité. En revanche, en Casamance, il y a un système qui a été mis en place par les villageois. Ce sont les campements. C'est-à-dire, ce sont des structures d'habitation qui sont respectent l'architecture locale, qui sont en pisé. L'argent va directement à la communauté villageoise. On est au cœur de la culture casamançaise. Et je peux vous dire que j'y étais l'année dernière. C'est pas un tourisme de masse, c'est un tourisme ni élitiste non plus. C'est un tourisme volontaire de gens qui veulent s'insérer dans la réalité, dans la culture africaine. Et je trouve que là, il y a avant que il y a un danger de tourisme de masse, il se passera quelques siècles.
Rodolphe Christin et ensuite Maria Gravary-Barbas. Mais pour répondre à Pierre Josse, Rodolphe Christin, on peut encore voyager comme Jack London ?
On peut encore voyager comme Jack London, mais pour revenir à la question du tourisme responsable, moi je crois que le tourisme responsable n'a pas vocation à remplacer le tourisme de masse. C'est un segment commercial qui s'ajoute à d'autres segments qui contribuent tous à massifier le tourisme.
Mais seulement si on passe par une agence de voyage éthique, mais si on décide soi-même de partir tout seul et par ses propres moyens, est-ce qu'on nourrit forcément un autre segment du tourisme ?
Ça dépend de ce qu'on trouve sur place, des endroits où on dort, des activités qu'on pratique. Et moi, de mon point de vue, c'est de plus en plus difficile d'échapper au système touristique dont on parlait. La question aussi qui se pose, c'est que quand on vend des séjours équitables, éco-responsables, mais que pour y aller, il faut prendre l'avion, on peut aussi se réfléchir sur cet impact de l'avion. On en a peu parlé là. Mais les transports ont aussi un impact fort sur la durabilité du tourisme, la responsabilité du tourisme. Or aujourd'hui, le développement de l'industrie touristique repose sur des départs de plus en plus fréquents pour des destinations lointaines et pour des séjours de plus en plus courts. Donc il repose sur le développement de l'avion. Alors si au bout de la destination, c'est d'aller dans un camp en Casamance, c'est sans doute mieux qu'autre chose, mais ça ne règle pas le problème de mon point de vue.
Maria Gravary-Barbas, aujourd'hui certaines compagnies aériennes proposent aux passagers de payer une taxe supplémentaire pour contribuer à une reforestation, etc. Les taxes que mettent en place certaines destinations touristiques doivent aussi servir à financer la réparation ou la rénovation de ce que le tourisme a déjà endommagé. C'est un peu Sisyphe, quoi, cette histoire. C'est-à-dire, on part quand même, mais on se donne bonne conscience en réparant ce qu'on a abîmé.
C'est une façon de faire et il faut la prendre en compte. Je veux dire qu'aujourd'hui, tout ce que nous pouvons faire, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment l'analyser et le prendre en compte. Pour revenir à la discussion que nous avions juste à l'instant, je pense que effectivement, du moment où on choisit un tourisme de niche, qui nous permettra de retrouver un peu cette figure héroïque du tourisme du 19e siècle, on se donne un peu bonne conscience. Certainement, on résout son propre problème qui est celui de retrouver vraiment un sentiment de touriste tel qu'on le souhaite, tel qu'on l'imagine. On est vraiment dans un tourisme romantique, mais ça ne résout absolument pas tous les problèmes que nous avons évoqués depuis tout à l'heure. Donc pour moi, la question n'est pas comment ceux qui ont les capitales, capital intellectuel, capital symbolique, capital touristique, parce que c'est en général les personnes qui ont énormément voyagé, qui ont aujourd'hui la capacité d'imaginer des destinations alternatives. Donc la question, ce n'est pas comment résoudre les problèmes de ces personnes-là. La question, c'est aujourd'hui comment peut-on travailler sur ces destinations qui effectivement souffrent d'un tourisme excessif. Et je pense que c'est par rapport à cela que la question des taxes, même si elle est symbolique, elle peut apporter quelque chose et ne résout absolument pas les problèmes.
Et ça veut dire quoi, une destination alternative? Parce que notre planète est quand même pas non plus si grande que ça et on en aura bientôt fait le tour. Oui. Donc est-ce qu'il faut créer de nouveaux espaces de tourisme? Enfin, c'est quoi la solution pour désengorger ces villes-là qui en souffrent trop, sachant que la population mondiale ne cesse d'augmenter?
Pierre Jos. Moi, je suis en accord avec Rodolphe. C'est-à-dire que la région grenobloise, moi, il y a deux lieux que j'admire. Je rêve d'y retourner et je vais y aller bientôt. C'est le plateau des Coulmes dans le Vercors, qui est un truc absolument génial. Et le Trièves.
Ah, le Trièves.
Le Trièves au sud de Grenoble, où je peux vous dire même qu'en juillet, il n'y a pas tant de monde que ça.
Et on y distille un très bon whisky.
Ouais. Et, non, la redécouverte. Moi, un des guides de routard que j'ai aimé faire, c'était celui du Nord-Pas-de-Calais et celui des Ardennes, qui sont, à ce que je sache, pas des grandes destinations fantasmées par les Français, mais en revanche, qui sont au sud pour les Belges, et les Belges adorent y aller. Je veux dire, il y a encore énormément de découvertes à faire dans des lieux où il n'y a pas de massification du tourisme, où les gens sont disponibles, souriants, où les prix sont agréables, l'hospitalité légendaire. Non, là-dessus, il n'y a pas de souci. Elle est là, l'alternative.
Donc, Rodolphe Christin, on n'est pas obligé de rester dans son canapé pour avoir bonne conscience.
Absolument.
Oui, tout à fait. Non, on peut sortir de son domicile et ouvrir l'œil. Et ça commence devant le pas de sa porte. Hein.
Maria Gravary-Barbas.
Oui. Non, mais je reviens à la question que j'évoquais tout à l'heure, qui est celle de comment peut-on effectivement répondre à des problème réel d'une massification du tourisme aujourd'hui. Nous avons beaucoup parlé de l'Europe, mais il ne faut pas oublier que ces problèmes-là sont beaucoup plus graves, beaucoup plus palpables, beaucoup plus importants dans d'autres régions. Une destination comme Ancore, il y a à peine une vingtaine d'années, il y avait quelques touristes européens. Aujourd'hui, est une destination qui se trouve pratiquement à portée de main d'une clientèle asiatique qui peut en fait s'offrir encore presque avec un vol aller-retour dans la journée. Aller deux jours pour pouvoir rester un peu plus. Donc voyez, je pense qu'il faudrait vraiment qu'on arrive à voir ces questions-là de façon plus large et je reviens à cette question des systèmes. Parce que si le problème d'un site comme Angkor n'est pas vu de façon plus large par rapport au Cambodge, par rapport à l'Asie du Sud-Est, par rapport à l'Asie de façon plus générale, je pense que on ne pourra pas parler de solution.
Et ça, vous en avez aussi conscience, Pierre Jos, quand vous éditez des guides du routard qui concernent ces destinations-là. Évidemment, vous ne pouvez pas vous passer dans un guide du Cambodge de parler d'Angkor.
On a la chance qu'à Angkor, il y a 40 temples. Il y en a 3-4 qui sont visités par 90% des touristes. Et s'ils font l'effort, il y en a un à 2 heures de là où avait été tourné le film Les deux frères de Jean-Claude Hanau, qui n'a pas été restauré, où il y a encore ces magnifiques ficus, ces scènes d'amour formidables entre le végétal et la pierre. Non.
Mais si vous dévoilez ça maintenant sur France Culture, tout le monde va se ruer là-bas.
C'est mon boulot.
C'est pas possible. Voilà. Bon, alors, Rodolphe Christin, le fin mot de l'histoire, c'est qu'on fait quoi? On part quand même ou pas?
Pour moi, il faut réfléchir pourquoi est-ce qu'on part. Peut-être partir moins souvent, plus longtemps, refaire du voyage une expérience exceptionnelle, donc rare. Et puis, d'un point de vue plus global et politique, sans doute arrêter de rendre accessible, de développer les infrastructures pour toujours y amener de plus en plus de monde. Parce que, par exemple, la réponse des professionnels du tourisme au surtourisme, c'est quoi? Il faut que déconcentrer les flux, donc créer d'autres infrastructures pour qui vont attirer les gens, pour pouvoir finalement les acheminer vers d'autres lieux. Mais ça ne règle pas le problème, qui est un problème de mon point de vue, de quantité.
Merci beaucoup Rodolphe Christin d'avoir été avec nous en duplex depuis France Bleu Isère. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, L'usure du monde, critique de la déraison touristique aux éditions de L'Échappée. Merci Pierre Jos qui voulait ajouter un tout petit dernier mot de conclusion, mais vraiment rapide.
Moi, je suis d'accord avec Rodolphe.
Ah bon, c'est ça.
C'est considérer un voyage en Casamance avec les campements, c'est le voyage d'une vie. Donc il faut y passer 15 jours, 3 semaines pour rencontrer les gens en profondeur. Ça n'a pas la peine de faire beaucoup de kilomètres. Voilà.
vos chroniques vagabondes, petit dictionnaire insolite des rencontres et itinéraires d'un routard sont publiés chez Hachette. Et merci à vous, Maria Gravary-Barbas, auteure de cet atlas du tourisme et des loisirs l'année dernière aux éditions Autrement. Merci beaucoup et très bonne soirée à tous. Merci à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Stéphanie Villeneuve, Léa Capuano, Alia Tovine, Roxane Poulain et Valentin Berg. Cette émission a été réalisée ce soir par Alexandre Fougeron avec à la prise de son Nasser Moussaoui et merci à France Bleu Isère.